Donc, je suis Isabelle Jimenez, je suis la présidente de l'association Grandir à son rythme, donc association basée sur la commune de Fontaine. Et donc, j'ai donné pour but de mettre en place donc, un jardin d'enfants basé sur la pédagogie Montessori, un accueil de loisirs le mercredi, des cours de soutien et des conférences axées sur l'éducation bienveillante et les pédagogies différentes.
Est-ce que vous pouvez expliquer comment est né ce projet un peu de jardin d'enfants et tout ce qui va autour ?
C'est un peu compliqué. C'est un projet qui n'a jamais dans ma tête. Il y a déjà plus de 8-9 ans. Suite à une réflexion que j'ai eue sur l'éducation et sur l'instruction, de manière générale, j'ai depuis une dizaine d'années, même 15 ans, j'ai beaucoup lu sur les pédagogies. J'ai démarré par la lecture d'un livre sur Janusz Korczak, qui n'est pas très connu en France. On connaît beaucoup plus Dolto. Il est très connu comme pédiatre dans l'éducation bienveillante dans l'Est de l'Europe. Donc ça a été un peu un déclencheur dans ma tête par rapport au regard qu'on peut porter sur l'enfant. C'est-à-dire un regard, on ne juge pas l'enfant, on ne le stigmatise pas. Et on porte toujours un regard sur lui bienveillant, c'est-à-dire un regard positif. Suite à ça, j'ai commencé un peu à analyser le système scolaire, notamment français, suite aussi au fait que j'ai travaillé aussi en Europe, où il y a des systèmes scolaires différents par rapport à celui qu'on peut connaître en France. Et ça, ça s'est fait en parallèle de mes lectures sur la pédagogie Steiner, pédagogie Montessori. Je me suis aussi intéressée à Freinet, aussi aux écoles qu'on peut mettre en place de Crowley, Oury, etc. Et donc c'est vrai que petit à petit, il serait bien de mettre en place une structure qui puisse justement axer la pédagogie, qui puisse avoir ce regard sur l'enfant, surtout entre 3 et 6 ans, c'est là où l'enfant se construit, même si après ça se fait aussi, mais c'est quand même, je dirais, un période de la vie charnière de l'enfant. Quand je suis devenue maman, quand j'ai voulu scolariser mon enfant, j'ai voulu chercher, je dirais, une structure qui corresponde à mes attentes. Puisqu'on ne peut pas dissocier éducation et école. Très souvent, on recherche à l'école en partie la manière dont on travaille avec son propre enfant dans le milieu familial. Et je me suis rendu compte que les punitions, les sanctions étaient assez courantes. Parce que bon, j'ai été aussi pendant 6 ans responsable d'une association en parentalité. Donc j'ai beaucoup écouté les parents par rapport à leur expérience personnelle. Et donc je me suis dit, il manque un pluralisme éducatif au niveau scolaire et j'aurais voulu avoir une école un peu comme Montessori. Je n'ai pas trouvé d'endroit où je vivais, il y en a très peu sous Grenoble. Et donc je me suis dit, bon, il serait peut-être bien de mettre en place une structure, mais de manière démocrate, c'est-à-dire de pouvoir donner accès au plus d'enfants possible. Et aussi en créant du lien avec les structures déjà en place, ne pas se refermer sur soi-même, ne pas être dans la fermeture mais dans l'ouverture. Donc ça a démarré comme ça, donc j'y pensais, j'y réfléchissais, et puis donc en 2010, avec un ou deux parents, on s'est lancé. C'était un gros challenge, mais j'aime les challenges, j'aime pas trop la routine. Donc je me suis dit, c'est un projet qui doit être possible, d'autant plus que je sentais qu'il y avait une demande des parents, au niveau de toutes les pédagogies un peu innovantes, on va dire. Des parents qui aimeraient avoir ce type de structure et qui n'ont pas toujours la possibilité d'avoir à côté. Il y a les convictions, mais après il y a la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on peut avoir des grandes convictions, mais sans emmener son enfant dans une école dite différente à perpète. Il y a aussi une très bonne maternelle à côté, avec des instituteurs très très bien aussi. Bon, la fin est tout à fait heureux. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas non plus contre l'école publique. Je ne suis pas pour l'école privée. Je suis pour un choix. Et des choix qui soient le plus axés financièrement aux familles. C'est pour ça aussi que j'ai envie de créer du lien avec d'autres écoles dans un enrichissement global, dans le sens où je sais aussi qu'il y a des instituteurs, des écoles publiques qui sont extraordinaires, qui aiment beaucoup leur métier, qui donnent beaucoup de leur temps et qui n'ont pas toujours le choix de mettre en place ce qu'ils souhaiteraient dû à la hiérarchie, qui sont contre les évaluations et qui malheureusement ne peuvent pas faire autrement que de les mettre en place. Moi, je suis ici d'un milieu de l'enseignement où j'ai entendu beaucoup parler et j'ai aussi des copines institutrices et qui s'en plaignent aussi. Je pense aussi quelque part avec ce projet, aussi, c'était toute une réflexion globale sur qu'est-ce qu'on veut comme enseignement pour quelle société future. Je crois que c'est vraiment ça l'essence même, c'est quelle éducation pour quelle société. C'est ce qu'on veut mettre en place, il faut travailler en amont, avec la petite enfance, avec tout l'accompagnement global. Voilà, donc c'est vraiment un projet d'ouverture, pas de fermeture, dans un esprit d'échange, et en complément, avec et pas contre. On est vraiment dans une démarche de créer du lien, d'enrichissement de part et d'autre, car on n'a pas non plus la vérité, sinon on est dans une secte. L'intelligence amène toujours à dire qu'on est toujours en recherche, on est dans l'humilité, et que Montessori c'est bien, mais c'est pas non plus tout bien 100%, comme n'importe quelle pédagogie. Selon l'enfant que vous aurez en face de vous, il sera adapté à tel ou tel aussi enseignement. Ça, je veux bien aussi bien le préciser, c'est-à-dire que il y a des enfants qui sont peut-être plus créatifs, d'autres plus intellectuels, d'autres plus scolaires. Donc chacun a son essence qu'il faut développer. Donc la pédagogie, c'est bien, c'est important, mais il y a aussi le regard qu'on porte sur l'enfant. Et voilà, en conclusion, quand on en a beaucoup lu sur les pédagogies, on se rend compte que toutes les pédagogies où l'enfant est actif dans son apprentissage sont des pédagogies qui portent sur l'enfant un regard positif. Souris, freiner, ori, c'est toujours à la base même, c'est le regard sur l'enfant et de développer les capacités qu'il a encore plus grand. C'est le valoriser pour l'amener à être autonome, avec une grande confiance en lui, pour être acteur dans la société. Et pas dans la passivité, dans l'activité, dans la démarche positive. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour que cette société avance ?
Policeman ! Policeman ! On va voir les satellites ! Allez, on va voir les satellites !
Je voulais vous demander aussi, vous avez parlé de travailler dans une démarche d'ouverture avec les autres structures existantes sur la commune, par exemple. Comment ça s'est passé pour monter ce projet en lien avec eux peut-être, et comment est-ce que vous comptez travailler avec eux ?
Alors actuellement, nous n'avons pas eu de réponse de la part des positives de la part des communes environnantes. Par contre, nous avons eu un contact avec la PMI du secteur, le conseil général, donc dans le but de travailler avec eux pour avoir un agrément. Donc c'est vrai qu'au niveau collectivité locale, on n'a pas eu de enfin, on a eu des contacts effectivement, mais on a eu des rendez-vous, mais ça n'a pas été plus concluant, on va dire. Je ne sais pas pour quelles raisons, hein, ça, après c'est à débattre. Donc c'est une raison pour laquelle aussi on a voulu travailler aussi avec des fondations privées, de manière à avoir des subventions, de manière justement à baisser les frais de scolarité, puisque c'est des projets qui sont en autofinancement, quand ils se montent au départ. Nous ne sommes pas école, hein, nous sommes jardin d'enfants. Bon, une école privée hors contrat, quand elle est mise en place, il faut 5 ans avant de demander l'agrément. Enfin, ce qu'on appelle le contrat avec l'État. Ma jardin d'enfants, ça passe par la PMI pour l'accueil en collectivité. Actuellement, on est en autofinancement à part un don que nous avons pu avoir d'une fondation. Donc c'est vrai qu'on aurait souhaité avoir plus de contact avec les collectivités locales pour aller plus en avant, mais ça n'a pas toujours été possible. On est dans un pays où il y a le privé et le public. On a l'impression qu'il y a le domaine public, le domaine privé, et qu'entre les deux, on n'arrive pas à faire un pont. On a l'impression qu'on est l'un contre l'autre, alors qu'on est, en complément, on est avec, on est là dans un but commun, c'est d'aller vers le mieux. Quand un enfant est éduqué dans la conciliation et la négociation, et non dans la confrontation, plus tard, dans ses relations interpersonnelles, bon, c'est pas du 100%, c'est pas des maths qu'on fait, mais il va gérer des conflits plus dans la tranquillité, moins dans l'énervement, moins dans la révolution. Et je pense qu'en France, il y a un gros travail à faire là-dessus, pour ce que j'ai pu en voir ailleurs en Europe, où j'ai pu vivre. On est beaucoup dans la confrontation, dans l'éducation, dans la punition, dans la sanction, dans la, je dirais pas la violence, mais pas toujours la discussion. Quoi qu'on dise actuellement, Nicolas, on a beaucoup de droits, je veux bien. Moi, j'ai l'impression que les enfants ont des droits qui se restreignent. Ils sont ballottés à gauche et à droite, par rapport à la vie qu'on nous met dans nous, en tant qu'adultes. Et ce qui fait qu'on n'a pas toujours le temps de discuter, de poser les choses tranquillement. La manière dont on a été éduqué tout petit, ben, très souvent, instruit ou éduqué, je veux dire, les deux à la fois, hein, parce que tout se rejoint plus tard, on gère des conflits de telle ou telle manière. Bon, je ne vais pas faire de la pédopsychiatrie, hein, ce n'est pas le but là, mon interview, mais je pense que c'est fondamentalement, c'est relié. Oui.
Vous avez dit aussi tout à l'heure que vous souhaitez que ce jardin d'enfantin il soit accessible le plus possible. Comment est-ce que vous pensez que, bah, par exemple, la Fontaine, qui est une ville assez populaire, est-ce que ce sera accessible pour les familles au niveau financier, par exemple ?
Voilà, donc nous on est parti d'un constat, c'est que la pédagogie Montessori, Madame Montessori, donc, a travaillé cette pédagogie-là pour les enfants défavorisés scolairement et socialement. Il faut quand même savoir qu'au départ, elle a monté ses écoles dans des quartiers très pauvres de la ville de Rome. Ça a eu des répercussions très positives sur les enfants. Et malheureusement, en France, je parle de la France, parce que dans d'autres pays européens, c'est encore autre chose, c'est très souvent très largement subventionné. C'est pour ça qu'on est assez spécifique en France hein, par rapport à l'école, hein, l'école publique, je veux dire. Ça n'a pas été reconnu dans le milieu public. Hein, et donc, les projets sont créés à côté, en privé. Ce qui fait que c'est des écoles qui sont des frais de scolarité très élevés. Donc, finalement, ça va à l'encontre de ce qui avait été mis en place initialement par Montessori. Et pourtant, c'est une pédagogie qui amène beaucoup à l'enfant. Il y a des expertises qui ont été faites, comme quoi l'enfant s'en trouve bien, on va dire. Notamment les enfants qui sont en difficulté scolaire. Ils retrouvent confiance en eux-mêmes. Non, non, c'est dit, voilà, si on veut un projet ouvert, on devra faire baisser sa frais de scolarité pour le rendre le plus accessible possible, notamment sur le secteur ouest du Drac, parce qu'on n'est pas à Mélan, Montbonno, Corin. Bon, c'est pas, je dis pas que c'est pas bien là-bas, c'est pas ce que je veux dire, tout, c'est factuel. Voilà, il faut être relayé à ce qu'on appelle la situation géopolitique d'un quartier ou d'un secteur. Donc c'est une raison pour laquelle on travaille cet agrément pour justement potentiellement ensuite travailler au quotient familial. Pour que les familles qui le souhaitent, qui n'ont pas forcément les finances, puissent y accéder pour leurs enfants. C'est pas simple, on n'est pas aidé financièrement pour les collectivités locales. Enfin, du moins jusqu'à maintenant ça n'a pas été encore le cas. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas nous reprocher des choses. Très souvent, on me reproche que ce soit très élevé, mais je ne peux pas faire autrement si on ne m'aide pas financièrement pour avoir des frais de scolarité bas.
Et pour l'instant, les frais de scolarité sont de quel montant ?
Donc là, actuellement, on a basé les frais de scolarité entre 300 euros et 320 euros. Donc ça, c'est quand une école est privée hors contrat ou quand un enfant n'est pas agréé. C'est-à-dire que ils n'ont pas d'aide, donc tous les parents doivent payer 300 euros ou 320 au niveau de notre structure pour y mettre leur enfant. Donc c'est vrai que ça paraît élevé. Effectivement, c'est pas non plus donné à tout le monde. Il faut dire ce qu'il en est, surtout actuellement, la situation actuelle économique de beaucoup de couples. Hein. Donc c'est pour ça qu'on aimerait bien pouvoir travailler sur les revenus des parents pour les frais de scolarité. Alors après, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai des amies institutrices, diplôme d'État, en école publique maternelle, mais elles ne sont pas sur l'agglomération, hein, elles sont dans le nord de la France, qui travaillent avec leurs enfants, avec la pédagogie Montessori, avec tout le matériel Montessori, et qui ont pu avoir l'agrément de leur inspection académique, avec des résultats très probants. Notamment une école en difficulté qui était en CEP, donc qui se démixisait. Il y a beaucoup de parents, qu'on appelle bobo, entre parenthèses, partaient dans le privé. Et en appliquant la pédagogie Montessori, ils ont pu faire revenir des parents. Donc ils ont remixisé l'école. Et l'inspection, on est tellement contente que finalement, même depuis 2 ans, ils sont passés au primaire, à Montessori. Donc pour dire que c'est faisable, mais il faut une volonté de la politique. Et puis aussi des individus, parce que je dis très souvent, les hommes font la société. Voilà, souvent on se plaint, on reproche, mais nous sommes tous co-acteurs. Donc si je le dis là à la radio, c'est pour dire que c'est une pédagogie qui peut être appliquée aussi en école publique. Mais il faut aussi peut-être informer les futurs maîtres. Pas comme on le fait actuellement, c'est fait en 2-3 heures. Mais expliquer en quoi ça consiste, comment peut-on faire, le rapport avec l'enfant, ça demande de l'information et surtout une grande remise en cause aussi. Parce que dans le système classique, on se met au-dessus de l'enfant. Là, comme Montessori, on se met à côté. J'ai une amie là, qui est en primaire, en Sud-Grenoblois, qui s'est formée en primaire publique, hein, s'est formée à la pédagogie Montessori. Elle m'a dit, ça m'a brassée, ça m'a beaucoup remis en cause. Par rapport à ce que j'ai appris, moi, en UFM, à l'époque, elle s'était formée. Il fallait que je me remette au niveau de l'enfant. Le regard est différent. Et c'est un peu comme l'éducation bienveillante, où c'est pas les rapports de pouvoir, on dit de maître à élève ou de parent à enfant. Bon, on met quand même un cadre à l'enfant. Attention, c'est pas non plus l'anarchie. Hein. Il y a un cadre qui est mis. Mais on va pas imposer. On n'est pas dans la soumission. C'est-à-dire que l'enfant, s'il ne veut pas faire, on se demande pourquoi il ne veut pas faire. On ne dit pas, tu ne veux pas faire, donc je te punis. Tu ne veux pas faire, donc... Non, mais c'est comme ça, c'est pas autrement. Tu fais maintenant, c'est le moment, tu fais. L'enfant ne veut pas faire, on va avoir le temps de dire, mais pourquoi il ne veut pas faire? Qu'est-ce qui se passe dans son être qui fait qu'il ne veut pas faire? Il n'est pas méchant, fondamentalement. Il n'est pas dans le non, fondamentalement. Il est fatigué, c'est pas le moment. Il est peut-être en difficulté avec ses parents, vous voyez. Donc les instituteurs dans le public, ils le font très très bien. Attention, je ne critique pas l'institution publique, mais je pense qu'il manque à beaucoup d'instituteurs, je pense, la gestion de conflits dans une classe. Et puis aussi, parce qu'on ne leur apprend pas à la base, hein, et puis aussi cette approche de l'enfant, où on se met voilà, au même niveau et pas forcément au-dessus. Mais après, effectivement, aussi des classes étant bondées, vous savez autant que moi. Quand vous avez 25 enfants dans la classe, vous êtes seul à gérer ça. Je comprends aussi qu'à un moment donné, on en arrive à serrer les boulons. On n'a pas le choix. Donc, c'est complexe. Hein. C'est complexe. La situation actuellement d'éducation en France est très complexe. Elle n'est pas simple pour les parents, pour les enseignants. Et puis, malheureusement, les enfants arrivent en bout de course, ceux qui payent les pots cassés. Ça, je vais encore le dire, c'est que très souvent dans les pays du Nord, notamment en Suède où j'ai pu vivre, la société s'adapte à l'école, s'adapte à l'enfant. Et nous, l'enfant s'adapte à l'école, s'adapte à la société. J'ai souvent dit ça.
Venez, on va voir un satellite.
Pour l'instant, qui sont les familles qui vous confient leur enfant?
Donc là, on a des familles qui sont venues nous voir de Fontaine, et de Sassenage et de Cessiné. On n'en a pas beaucoup de Grenoble. La plupart sont déjà sensibilisés à la pédagogie Montessori. Nous avons une démarche en valeur enfant qui est dans ce sens-là. Et on a aussi une ou deux familles à des enfants en difficulté, qui ne sont pas encore à l'école, qui n'ont pas encore 3 ans, mais qui sont soit précoces, soit avec des soucis, on va dire, difficultés un peu d'hyperactivité. Elles pressentent que dans le système classique, le nombre d'enfants dans une classe, ils ne seront pas accompagnés à leur rythme. Ils sont moins pris en charge. Parce que toi, dans le système classique, on n'a pas toujours les moyens, et les moyens financiers et la main-d'œuvre, ce qu'on appelle les AVS, pour suivre les enfants en difficulté. Je vois mon fils être en maternelle et je disais à un moment donné, il n'y a pas d'enfants handicapés portant de handicap. Et je trouve ça dommage parce que la société est faite de tout le monde. Elle est faite de diversité. Et je trouve ça dommage parce que ça ouvre aussi les enfants sur la différence et sur la tolérance. Mais encore voilà, on tombe toujours sur le problème politique, des moyens financiers. Donc financier pour l'AVS et financier aussi pour avoir des athlètes qui puissent s'occuper de ces enfants, puissent aider. Donc là, je pense que si on aborde le vrai souci de l'éducation en France, est-ce que l'éducation est importante? Est-ce que l'école est importante? Quand on sait qu'on a élevé le nombre d'enfants par éducateur dans les jardins d'enfants ou dans les crèches, ça pose des questions par rapport à l'accompagnement. Est-ce que l'enfant est important? Donc plus loin, est-ce que la société est importante? Qu'est-ce qu'on veut comme société? L'enfant, c'est le début de tout. Des pays comme la Suède ou la Finlande qui l'ont très bien compris, on met le paquet là-dessus car on sait qu'après, on a soit moins de soucis. Un enfant, c'est comme un arbre. C'est-à-dire qu'il y a l'école et la famille. Les deux sont importants, hein, bien évidemment. Quand l'arbuste commence à pencher un petit peu, et le petit, on peut le remettre, le tuteur. Mais quand il a commencé à pencher un peu trop à droite ou à gauche, que ce soit scolairement, enfin, ou bien des soucis psychologiques, enfin, des soucis interfamiliales, ou bien l'enfant n'est pas à l'aise. Enfin, j'accuse personne, mais l'enfant n'est pas bien. Il y a un mal-être. Voilà. S'il y a un mal-être, si on attend trop longtemps, ben, l'arbuste se penche, et après, à 10, 12, 13, 14 ans, quand vous le mettez au tuteur, ça se travaille, mais le tuteur, il a du mal à remettre l'arbre dans l'équilibre, on va dire. Je dis ça pour dire que la petite enfance, comme l'enfant, c'est vraiment une priorité. Et donc, actuellement, je ne sais pas si on le souhaite. Est-ce que c'est important, l'éducation? Il y a de l'argent dans ce pays. On ne dit pas le contraire, il y a de l'argent. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'argent? C'est comme dans une famille, on a un budget, qu'est-ce qu'on met en priorité? La bouffe, la location, ou on met priorité sur autre chose? Sur ce qui paraît superflu. Il y a le nécessaire et le superflu. Et je pense que l'éducation, c'est vraiment les fondamentaux dans une société. Pour une société après de conciliation, de respect, de tolérance.
Comment ça se passe pour créer bon, là, on n'est pas dans le cas d'une école, mais par exemple, donc là, c'est jardin d'enfants. Comment ça se passe concrètement? Quelle démarche est-ce que vous avez dû entreprendre? Quelles difficultés est-ce que vous avez rencontrées?
Bon, concrètement, quand vous montez une structure collective pour enfants de moins de 6 ans, soit vous êtes école, donc là, il faut être déclaré au rectorat, éducation nationale. Soit vous êtes jardin d'enfants, il faut déclarer en PMI. Concrètement, le point le plus difficile, c'est la recherche du local, adapté à la petite enfance. Ça, c'est le plus difficile, car vous avez des locaux qui sont intéressants, mais qui sont très chers, avec 3-4 mois de caution. Et quand vous demandez ce type de projet en autofinancement, vous n'avez pas les moyens financiers au départ pour financer ce type de caution. D'autre part, vous avez des locaux qui ne sont pas très chers, mais qui ne sont pas adaptés à la petite enfance. Et nous, on voulait avoir un local de plein pied, notamment par rapport aux enfants en fauteuil roulant. C'est notre priorité, donc pas d'escalier, accès WC pour les enfants handicapés. Et donc ça, pareil, ça ne court pas les rues. Après, vous avez fait aussi un budget à tenir, avec notamment des salaires qu'il faut verser, dans ce qui fait qu'on a essayé de travailler avec des personnes qui peuvent être en contrat aidé pour le démarrage. Donc après, il y a tout ce qui est administratif, c'est-à-dire en fait, vous renseigner sur la loi, que dit la loi par rapport aux écoles, que dit la loi par rapport aux enfants, par rapport au diplôme requis pour l'enseignement, par rapport à la l'ouverture d'un établissement de collectivité, ERP, qu'est-ce qu'il faut comme papier pour pouvoir ouvrir. Ensuite, par rapport à l'agrément PMI, il faut se référer à un dossier de la petite enfance au niveau de l'État. C'est le code de la santé publique. Qu'est-ce qu'il faut concrètement en surface? Qu'est-ce qu'il faut comme éducatrice, par enfant? Voilà, je vous dis un peu tout ça pour vous dire que c'est administratif, c'est plein de lois, plein d'articles qu'il faut connaître et que je ne connaissais pas et que j'ai appris à connaître. Et puis on est sur un projet en plus qui n'est pas habituel. Mettre en place une école, c'est plus courant. Donc encore, les gens ont de l'expérience. Dans les enfants, c'est moins courant. Donc on est un peu sur des... Enfin, dans ce pays, quoi, on est un peu entre la crèche et puis l'école, vous voyez. Donc ce qui fait, c'est une structure qui n'est pas très connue, pas très habituelle. Ce qui fait que les informations ne sont pas trop faciles à avoir. Parce que même ceux à qui on les demande, qui devraient nous répondre, ne sont pas eux-mêmes toujours informés. Je dirais qu'ils sont comme nous, ils sont dans la nouveauté. Donc c'est des questions qu'on leur pose qui ne sont pas habituelles. Donc ils n'ont pas toutes les réponses tout de suite à vous donner. Donc du coup, il faut qu'on se mette en recherche comme eux. Il faut chercher l'information de partout. Elle n'est pas toujours facile à trouver. Donc on va à la pêche aux informations. Parce que les jeunes enfants ne sont pas très habituels. On est en France en 6 ans, en école maternelle. Sachant qu'avant 6 ans, l'école n'est pas obligatoire. Des parents qui vous disent on devrait avoir le choix de la structure d'accueil pour notre enfant. Et dans les faits, on n'a que l'école maternelle. On ne peut pas mettre l'enfant ailleurs. Ce qui fait que quand ils veulent créer autre chose, ben justement, ils se retrouvent devant un flou artistique. Pourtant, ça existe, dans l'enfance, ça existe. Il y a une procédure à suivre, hein, mais on n'en est pas informé. Donc, monter une école privée hors contrat, c'est beaucoup plus simple au final. Enfin, ce n'est pas plus simple, mais on a les lois. Genre d'enfants, on est plus dans les mouvances, on va dire. Ça a été difficile dans le sens, il a fallu aller à la pêche aux informations, avoir les lois, et puis surtout, il faut rentrer dans les tiroirs. Par rapport, vous rigolez, mais c'est vrai, par rapport au diplôme, par rapport au local, par rapport à la surface, par rapport aux agréments. Donc c'est plein de tiroirs qu'il faut arriver à mettre en adéquation, de manière à après avoir la grande armoire, et l'armoire, ça vous fait le genre d'enfants. Il y a des projets qui se mentent et qui n'arrivent pas à atteindre parce que les gens se découragent. On se confronte à tellement de difficultés qu'à un moment donné, humainement, on préfère arrêter. C'est beaucoup de temps.
À l'heure actuelle, vous accueillez combien d'enfants?
Donc là, on peut en accueillir une quinzaine. Là, on en aurait à confirmer 6 ou 7 pour démarrer. Et nos enfants aussi, pour 6-7 pour pouvoir nous y retrouver. Donc on espère que ça pourrait être concrétisé. Voilà, justement, les portes ouvertes qui sont là aussi pour les parents se rendent compte de l'endroit où l'enfant va vivre. Donc, c'était le but des portes ouvertes, c'était vraiment de concrétiser pour les parents l'endroit de vie de leur enfant en journée. Ben, moi, j'aurais le souhait que, peut-être un peu idéaliste, hein, diffuser à tous les échelles de la société française l'éducation bienveillante. Au niveau informatif et au niveau pratique, c'est-à-dire donner des outils concrets aux parents pour comment accompagner leur enfant avec ce regard. Et surtout, déculpabiliser les parents par rapport à des soucis que peuvent avoir leurs enfants. Car le ressenti que j'ai en France, c'est que dès qu'un enfant crie trop, dès qu'un enfant bouge trop, dès qu'un enfant n'est pas facile, on n'est pas facile. Moi, je vois ce terme-là. Ça m'horripile. Et qu'on est en collectivité, c'est-à-dire au grande surface, dans la rue, en bibliothèque. Je l'ai vécu, donc je peux en parler en concernant de com. Non, mon enfant est grand, non, bon, on est passé à autre chose. Hein, mais on sent autour de soi un regard de la collectivité qui fait sentir aux parents qu'il est en culpabilité parce que son enfant est en difficulté. On a des parents qui vont s'énerver encore plus sur leur enfant, qui sentent ce regard sur eux. Donc c'est pour ça que je dirais que l'enfant ait sa place dans cette société. Car je pense qu'il n'a pas la place qu'il mérite. Il est trop à l'étroit. Il se tape toujours à des murs. C'est très flagrant quand on est dehors. Un enfant qui est sage, obéissant, qu'est-ce qu'il est bien cet enfant, qu'est-ce qu'il est bien éduqué. Ah, les parents étaient en routine. Un enfant qui bouge trop, mais qui bouge trop, on dit qu'il bouge trop, mais un enfant qui bouge concrètement. Voilà. Est-ce qu'il est normal qu'un enfant bouge qu'à l'âge de 6 ans? Pour moi, c'est normal. Mais dans la société où on vit actuellement, c'est souvent perçu comme anormal. Hyperactivité, l'enfant envoyé chez le psy. Voilà, déculpabiliser les parents, donner des outils pédagogiques, comment faire pour gérer des crises, des conflits. Donner sa place, une vraie place à l'enfant. L'enfant est au centre de la société, et pas en annexe, à côté. Car un enfant, c'est un être humain, il bouge à un âge, plus tard il se pose. Il faut qu'il ait son espace de vie. Voilà, mon but, ça serait que la société change de regard sur l'enfant. Pas ce regard de stigmatisation, de jugement. Il y a un retour, j'irais, à l'école de Jules Ferry, il y a un retour à l'éducation d'autrefois. Les enfants sont trop, bougent trop, les enfants sont mal éduqués, les enfants sont trop laxistes. Tout ce que j'ai entendu autour de moi, oui, effectivement, c'est en partie vrai, mais qu'est-ce que nous on fait pour aider les parents dans la parentalité? Être parent, c'est très difficile. Quand on a un enfant qui est bébé, ça paraît tout simple. Il commence à grandir, l'enfant, et en sorte à des gestions de conflits, de crises. Il faut en passer par là pour que l'enfant grandisse aussi. Un enfant qui ne fait pas de crise, qui n'est pas dans le conflit, il sera jamais un adulte sécurisé. Il ne sera pas dans l'autonomie. Il y a deux pôles dans notre structure. Il y a le pôle apprentissage et le pôle jeu. On n'est pas dans l'apprentissage absolument. On l'est, si l'enfant est prêt. Mais s'il veut se poser un moment ailleurs, il peut le faire aussi. Il en a le droit. Voilà. Donc c'est vraiment ça mon cœur, quoi. Alors, c'est pas d'être laxiste envers l'enfant, mais c'est vraiment de lui donner une place à part entière d'enfant. D'enfant. Avec des adultes, adultes. Mais vraiment adultes aussi. Ça pose la question là aussi. Et pas grand enfant. Dans l'axe, on va dire, vous voyez. Car je pense qu'un enfant se pose autant plus qu'on est dans l'axe. Mais là, pareil, c'est pas toujours simple tous les jours. Donc pareil, on est dans la même chose. Comment aider les parents aussi, sans les culpabiliser, à jouer leur rôle de parent, ce qu'on appelle le soutien à la parentalité.